Mardi 24 avril, c'est l'émission Le Quotidien. Céline Denis avec vous. Et non, ce n'est pas Jean-Sébastien Laliberté qui est là, mais bien Maurice Bolduc. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Joyeux printemps.
Oui, bonne journée.
Oui. Vous êtes de bonne humeur?
Oui, oui, ça va, ça
oui,
va.
Oui, vous avez un T-shirt où on peut lire Charo Gusto.
Ouais, c'est le nom d'une chanteuse populaire. Soit sud-américaine ou italienne, ça ne m'a jamais été confirmé.
Ah oui? Maurice arrive toujours avec des T-shirts qui font parler. En tout cas, on les remarque.
Ouais, tant mieux, tant mieux.
Est-ce que vous avez eu le temps de préparer la chronique éphémérite du 24 avril?
Quelques événements. La date ne change pas. journée mondiale aujourd'hui. En ce 24 avril, ça se nomme le Fashion Revolution Day. On aurait pu appeler cela la journée mondiale de la mode responsable, mais comme il est écrit, rendons à César ce qui est à César et aux Britanniques ce qui est british. Restons anglais. L'idée a en effet été lancée par la Britannique Carrie Summers, créatrice de la marque équitable Pacha Kuti, qui après l'effondrement de l'usine textile, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Bangladesh, là,
oui, ah oui.
Ça avait, le 24 avril 2013, ça avait fait 1135 morts. Donc, pour conscientiser les gens aux vêtements, la dame suggère aujourd'hui de retourner vos vêtements. L'idée, c'est de porter ces vêtements à l'envers avec l'étiquette qui est voyante et pour voir d'où est-ce que le produit vient, pour voir que c'est un bon produit dit équitable. Puis une fois que c'est fait, vous prenez un selfie puis vous le publiez sur les réseaux sociaux.
Ah, je sais pas si on va en voir pas mal sur les réseaux sociaux à suivre.
Mais ça commence quand même assez, c'est la cinquième année là, qui tout simplement de cette journée. Mais il y aurait une cinquantaine de pays déjà qui adhéraient à cela.
Mm-hmm.
Quelques dates. En 1854, c'est le mariage d'Elisabeth de Wittelsbach, dite Sissi. On l'a connu par les fameux films avec François-Joseph Ier d'Autriche.
Robbie Schneider qui incarnait Sissi.
Oui, ouais, cette trilogie de films. En 1918, à la Première Guerre mondiale, c'est le premier combat de chars d'assaut dans l'histoire. En 1968, l'île Maurice devient membre des Nations Unies. En 1990, c'est le lancement par la NASA de la navette spatiale American Discovery qui a mis en orbite le télescope spatial Hubble, qui, je crois, qui est toujours en fonction. On voit toujours des images fantastiques de l'univers. En 2005, oui, c'est le transfert du tombeau de Sainte-Marguerite Bourgeois de sa maison mère à la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, ici à Montréal. En 2005, Snoopy, mais on l'écrit avec un U-S-N-U-P-P-Y, est le premier chien conçu par clonage en Corée du Sud. Déjà 2005, de fait.
C'est
déjà
pas le Snoopy de Charlie Brown, mais
non,
inspiré
non.
De...
Oui, ouais, en hommage, je présume.
Oui,
là,
oui.
On l'écrit avec un U. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2009, publie un communiqué qui fait état de l'apparition et de la diffusion de la grippe H1N1, la grippe A. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait la file au Parc olympique ici à Montréal pour se faire...
oui, je me souviens.
Personne n'a eu la grippe.
Non, mais c'est-tu parce que tout le monde a reçu un vaccin?
Ah, peut-être, ou encore, je ne sais pas, en tout cas, ils ont eu peur. C'était de la prévention.
Oui, plus de peur que de mal.
Ouais, c'était de la prévention, c'est bien correct. En 2015, c'était la célébration du centième anniversaire du génocide arménien. Moins rigolo comme événement. Quelques naissances, on fait dans le people aujourd'hui. Même le premier, c'est en 1581, Vincent de Paul qui devient Saint-Vincent de Paul, donc naît en 1581.
J'ai un cousin qui s'appelle Vincent et son frère Paul.
Ah.
Je sais pas si c'est un lien.
Il faut juste voir leur état de sainteté. En 1934, naissait l'actrice américaine Shirley MacLaine. En 1942, c'est l'anniversaire aussi de Barbara Streisand aujourd'hui.
Ah, oui.
En 1946, naissait Dick Rivers, chanteur français. En 1947, Claude Dubois, très connu ici, auteur-compositeur.
Des belles voix qui sont nées le 24.
En 1949, Véronique Sanson.
Wow.
En 1952, Jean-Paul Gaultier, couturier français. Et en 1966, l'humoriste Pierre Brassard naissait. Donc, on ne souligne aucun décès aujourd'hui. Ça fait le tour de ce 24 avril.
Un grand merci, Maurice. Il en est question dans tous les journaux. Attaque au camion Bélier, au moins 10 morts. Les gens étaient projetés en l'air. Nos envoyés spéciaux à Toronto, la chronique d'Yves Boisvert, la terreur avec ou sans terrorisme. Actualité aussi, un parcours funeste. Les envoyés spéciaux sont Simon-Olivier Larange et aussi Hugo de Grandpré. Partout, le silence. La chose n'est pas habituelle dans la large rue Yonge, colonne vertébrale du quartier North York, d'ordinaire l'une des artères les plus animées de la ville-reine. Le trottoir du côté ouest est fermé aux piétons. La camionnette infernale y avait roulé quelques heures plus tôt. De l'autre côté, de nombreux passants, pour la plupart un téléphone à la main, afin d'immortaliser la scène. Et au milieu du périmètre de sécurité, un soulier, un manteau, point de suspension. Et des corps qui jonchent toujours le bitume sous des couvertures oranges au milieu des dizaines de policiers affairés. Dans ce quartier largement multiculturel, où une abondante communauté coréenne côtoie notamment des migrants russes, européens, hispanophones et du Moyen-Orient, quelques restaurants sont restés ouverts, mais n'ont accueilli qu'une poignée de clients. Même le soir d'un match crucial des Maple Leafs, le bar sportif du coin était quasi vide. Personne ne pouvait expliquer hier soir ce qui a poussé un jeune homme de 25 ans à conduire sa camionnette louée à toute vitesse sur le trottoir de l'une des rues les plus achalandées du pays et à faucher les piétons un par un, semant la mort sur son passage. Alec Minassian, programmeur informatique de Richmond Hill, en banlieue de Toronto, a pesé sur l'accélérateur peu avant 13h30 autour de l'intersection des rues Yonge et Finch, au nord du centre-ville et à proximité de l'une des stations de métro les plus occupées de la ville-reine. La camionnette blanche, arborant le logo d'une entreprise de location, a heurté au moins 25 personnes sur une distance de près de 1 km, faisant 10 morts et 15 blessés. Le suspect a été appréhendé peu après 13h50 à une vingtaine de coins de rue au sud, rue Yonge, près de Shepherd, après un bref affrontement avec la police. La terreur avec ou sans terrorisme, c'est le titre de la chronique d'Yves Boisvert que je vous lis à propos de l'attaque à Toronto. Ce n'est peut-être pas du terrorisme, a dit la police, comme si tout d'un coup ça semblait moins grave. Mais ça change quoi exactement? Ça change l'enquête, ça change les discours, ça change les explications, sans doute. Mais ce matin, ça ne change rien à l'horrible, à la terreur. Toronto, lundi midi de printemps, trottoir bondé, une camionnette fonce exprès sur les piétons. 10, entre parenthèses, 10, parce qu'il l'écrit en lettres et après en chiffres, personne meurt. Donc, 10 personnes meurent. 5 autres sont aux soins intensifs, on ne sait pas si elles vivront. Le suspect a un nom à consonance arménienne. Ça n'entre pas dans les cases habituelles. Il n'a pas été question d'islam radical ni du groupe État islamique. Mais est-ce moins tragique? Est-ce moins inquiétant? Alexandre Bissonnette a dit à un psychologue qu'il avait pensé attaquer des étudiants à l'université ou des gens au hasard dans un centre commercial. Est-ce que ça rend l'attentat de la mosquée de Québec moins haineux, moins terrible, moins terrifiant? L'absence de motivation politique ou idéologique de l'auteur, en fait, rendrait ces actes encore plus imprévisibles. Si ce n'est pas le fait d'une cellule terroriste, d'un loup plus ou moins solitaire mais nourri à la propagande, c'est d'autant plus indétectable. Daesh et Al-Qaïda ont propagé des techniques d'assassinat très précises avec des camions. On en a vu les résultats depuis 2 ans. À Barcelone, 14 morts. À Nice, 86 morts. À Londres, 8 morts. À Stockholm, 5 morts. À Berlin, 12 morts, etc. Souvent, l'auteur avait été fiché par les services de renseignement. Ici, aux premières nouvelles, rien. Si un esprit déréglé imite les actes et les techniques terroristes inspirées de l'EI, on ne le classera pas comme un acte terroriste. C'en est peut-être cependant une excroissance, un sous-produit dû à une sorte de contagion. Et à la fin, 10 personnes sont mortes, de manière tout aussi absurde et révoltante. Aux yeux du code criminel, un acte terroriste doit être commis au nom d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. Un acte qui doit aussi viser à intimider la population quant à sa sécurité. Un acte qui peut viser à contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir. un acte qui cause des blessures graves ou la mort, qui met en danger, qui compromet la santé ou qui cause des dommages matériels importants. À côté d'un terrorisme idéologique, structuré ou de cause, s'est développé une sorte de terrorisme nihiliste qui ne réclame rien, mais qui prétend tuer et détruire pour venger des agressions occidentales en attaquant des infidèles. Il ne contient pas de programme politique, mais il se nourrit d'idées politico-religieuses islamistes. Et ce terrorisme-là, à la Al-Qaïda, en a peut-être enfanté une version pathologique, dans laquelle la rage, le désespoir et les idées suicidaires peuvent s'engouffrer, de la même manière que les tueries de masse font des imitateurs. Plus tard, on en reviendra aux définitions. On ne sait pas encore comment on classera l'événement. Mais ce matin, ça ne doit pas empêcher d'encaisser l'événement, de mesurer l'ampleur du carnage. La plus grande ville canadienne a été frappée en plein cœur. Après tant d'autres, on sait tous que cela peut arriver dans toutes les grandes villes, ici aussi. Comme si, tristement, on s'y attendait sans vouloir y penser. La mort qui vous ramasse sur une place, sur un trottoir. Comme à Nice, un soir de fête, comme à Barcelone, sur la promenade, comme à Berlin, au marché de Noël, comme partout. Un beau jour de printemps tardif, en marchant tranquillement à Toronto. Plus tard, on dira pourquoi plus tard encore, on marchera comme ils ont remarché sur la Ramblas, en sachant que ça, quelle que soit sa définition, ça peut arriver. Ce matin, ça ne change rien à la tristesse. Immobilière, des centaines, peut-être des milliers de fonctionnaires qui travaillent à Montréal seront graduellement déplacés du centre-ville vers l'Est au cours des prochaines années, a annoncé le gouvernement Couillard hier. Ce plan fait partie d'une stratégie plus large dévoilée par le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan, afin de doter le gouvernement québécois d'une vision immobilière. Environ 25 ministères et organismes gouvernementaux ont des antennes au centre-ville de Montréal. Environ 9 000 fonctionnaires y travaillent. Or, les coûts de location de ces bureaux ont augmenté au fil des ans, a expliqué le ministre Arcan. Compte tenu des augmentations importantes au cours des dernières années des coûts au centre-ville de Montréal, il est clair que le gouvernement va se poser des questions, a-t-il résumé. La Société québécoise des infrastructures, le bras immobilier du gouvernement, sera chargée de mener l'opération. Au fur et à mesure que les baux de location des différents ministères viennent à échéance, la Société d'État examinera la possibilité de les reloger dans les quartiers où les coûts sont plus bas. Nouveau revers pour le gouvernement britannique. Les Lords ont infligé au gouvernement britannique un nouveau revers en votant pour que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne soit conservée dans la loi britannique à l'occasion de l'examen d'un texte de loi sur le Brexit. Ce projet de loi gouvernemental sur le retrait de l'UE doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura coupé le cordon avec le bloc européen. Il met fin à la suprématie du droit européen sur le droit national britannique et organise la transposition des réglementations européennes. Les Lords ont voté à 316 pour et 245 contre un amendement soutenu par l'opposition visant à conserver la Charte des droits fondamentaux de l'UE, l'Union européenne, dans la législation britannique.
Ça fait depuis l'enfance que je connais Pauline. Je n'ai jamais eu la chance d'être sa copine. Ah ah ah. Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines. Il y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Ah hum, hum, oh Pauline, pendue à tes bottines. les garçons passaient tous à côté de moi. Oh, Pauline, belle comme une ballerine. Je les comprenais, je ne leur voulais pas. On a suivi nos routes un peu en parallèle. Moi surmontant mes doutes et toi de plus en plus belle. Oh, oh, oh. J'ai trouvé ce garçon qui me trouvait je ne sais quoi. Mais tu connais son nom et tu le veux pour toi. Oui, tu le veux pour toi. Oh, Pauline, j'ai pas ta poitrine. Mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh, Pauline, moulée dans ton jean. Tu sais que je ne peux pas lutter contre ça. Je ne suis pas stupide, tu peux claquer des doigts, en faire un chien de cire qui ne vivra que pour toi. Oh, oh, oh. Pour toi ce n'est qu'un jeu, tu l'oublieras demain. Moi je suis folle amoureuse, s'il me quitte c'est la fin. S'il me quitte c'est la fin. Oh Pauline, rose pleine d'épines. Tu le blesseras un jour, alors laisse-le-moi. Oh Pauline, range tes canines. Laisse le bonheur aux autres, au moins pour cette fois. Oh Pauline, oh Pauline. Laisse le bonheur aux autres, au moins pour cette fois. Oh Pauline, oh Pauline. Laisse le bonheur aux autres, au moins pour cette fois.
On vient d'entendre l'artiste Pomme, accompagné de Fanny Bloom, qui nous chantait Pauline.
En une du Devoir de ce mardi 24 avril 2018, scène d'horreur à Toronto, une attaque au camion Bélier fait au moins 10 morts et 15 blessés. Alors, toute une photo qui prend la moitié de la page du journal de Devoir. Le corps d'une des victimes de l'attaque repose sous une couverture, alors qu'on voit aussi des policiers sur la rue où s'est déroulée la tragédie. Alors, je poursuis avec d'autres titres à la une du Devoir. Sondage, la nécessaire francisation des immigrants. L'apprentissage de la langue de la majorité devrait être obligatoire, disent les Québécois. Culture, Saint-Jérôme restera au Québec. La ministre québécoise de la Culture a publié lundi un avis d'intention de classement pour le tableau que se disputent trois musées. Une attaque à la fourgonnette en plein après-midi lundi a donné lieu à une des pires scènes d'horreur à Toronto. Au moins 10 personnes sont décédées et 15 autres ont été blessées après avoir été heurtées de plein fouet par un conducteur, a confirmé la police. Bien que les motifs du suspect n'aient pas été dévoilés, le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, a indiqué que le geste semblait assurément délibéré. Il a souligné que toutes les pistes étaient sur la table à ce point-ci de l'enquête. Le policier a insisté pour dire que celle-ci était à un stade préliminaire. Les condoléances de la classe politique ont afflué lundi, à la suite du drame qui a secoué Toronto. Mais au-delà de l'expression de leurs pensées pour les 15 blessés et les familles des 10 victimes, les politiciens se sont abstenus de commenter plus à fond le tragique événement, alors que la police de Toronto n'en était qu'au début de son enquête. Seul le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, s'est permis de déplorer une attaque horrible sur Twitter. M. Goodale a cependant clarifié son message en soirée en se fiant aux informations qui sont disponibles à l'heure actuelle. Cet incident, c'est bien écrit incident, ne semble pas avoir de lien avec la sécurité nationale, a assuré le ministre en point de presse à Toronto avec les autorités locales.
Thank you.
attentats de Québec, on ne peut exclure que dans 25 ans, Alexandre Bissonnette aura suffisamment travaillé sur lui-même pour pouvoir être remis en liberté sans représenter un danger pour la société, avancé lundi un expert en psychologie appelé à la barre par les avocats du meurtrier. Il n'est pas illusoire de croire qu'il soit éventuellement possible de maîtriser le risque de l'expertiser, afin qu'il puisse retourner dans la collectivité, conclut dans un rapport de 40 pages Marc-André Lamontagne, un expert en psychologie et en évaluation de la dangerosité et de récidive violente. À ses yeux, certains facteurs jouent en faveur de Bissonnette. Il est intelligent, a peu d'antécédents criminels, n'est pas un psychopathe, n'a pas une personnalité antisociale et n'est généralement pas impulsif. C'est Lucien Bouchard qui sera médiateur spécial dans le dossier du lock-out à l'aluminerie de Bécancour. Le ministère du Travail a confirmé l'information lundi. Un médiateur expérimenté avait déjà été affecté au dossier, Maître Jean Nolin. Mais devant la durée du conflit et le fait que les négociations sont au point mort, Québec a décidé d'agir. La nouvelle de la nomination de M. Bouchard a été fort bien reçue par le président de la section locale 9700-9700 du syndicat des métallos, Clément Masse. Joint au téléphone, celui-ci s'est dit prêt à négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La justice péruvienne a ouvert une enquête sur la mort d'un Canadien apparemment lynché à mort alors qu'il était soupçonné d'avoir tué une dirigeante indigène octogénaire. Les autorités n'ont pas précisé l'identité du Canadien retrouvé mort samedi par la police ni la façon dont il est mort, mais ont indiqué que la mort du citoyen étranger serait liée à la mort d'Olivia Arevalo, annoncée la semaine dernière, membre de la communauté indigène Shipibo. Conibo. Le gouvernement a promis vendredi de tout faire pour retrouver le responsable de cet assassinat. Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont affiché leur bonne entente lundi à la Maison-Blanche, au premier jour d'une visite chargée en symboles, mais aussi en dossiers épineux, avec le nucléaire iranien en tête. Chaleureusement accueilli avec une embrassade par M. Trump à son arrivée, M. Macron a rejoint ce dernier dans le bureau Oval pour une brève visite de ce lieu chargé d'histoire. « Nous, les États-Unis, comme la France, avons une responsabilité toute particulière. Nous sommes les garants du multilatéralisme contemporain. Nous avons beaucoup de décisions à prendre », avait lancé le président français à son arrivée sur la base aérienne d'Andrews, dans une brève allocution en anglais, puis en français. Alphabet, maison mère de Google, a publié lundi des résultats trimestriels meilleurs que prévu avec notamment un bond de 74 % de son bénéfice net à 9,4 milliards de dollars, toujours porté par les recettes publicitaires. Rapporté par Action, le bénéfice ressort à 13,33 US au premier trimestre, tandis que le chiffre d'affaires est en hausse de 26 % à 31,1 milliards de dollars. Ces chiffres sont aussi portés par un changement comptable dans les résultats d'Alphabet, qui doit désormais faire ressortir dans ses comptes la valeur de certains investissements dans d'autres entreprises, comme par exemple la compagnie de réservation de voitures avec chauffeur Uber. Le bénéfice opérationnel ressort à 8,37 milliards en hausse de 13,5 % par rapport à l'an dernier. Rendre obligatoire la francisation des immigrants, c'est une idée à laquelle adhèrent de nombreux Québécois, 84 % selon un récent sondage Léger commandité par le Mouvement national des Québécois, MNQ, et la Fondation Lionel Groulx. Une majorité presque aussi forte, 73 % estime même que la connaissance minimale du français devrait être une condition obligatoire pour demeurer au Québec, selon cette enquête. Deux garçons et une fille ont comparu vendredi au tribunal de la jeunesse à Montréal pour répondre à des accusations liées à un viol collectif commis sur une adolescente de 13 ans le mois dernier. Un quatrième adolescent sera accusé plus tard cette semaine. Selon le service de police de la ville de Montréal, l'agression serait survenue le samedi 24 mars entre 20h et 23h30 dans un appartement situé à Montréal-Nord. Ce n'est que plusieurs jours plus tard, soit le 30 mars, que la police a été informée de l'accident. La relationniste du SPVM, André-Anne Picard, confirme que la victime et les suspects se connaissent et qu'ils se trouvaient tous ensemble à une fête privée. Et si la facture du prolongement de la ligne bleue s'annonce beaucoup plus élevée que celle du métro à Laval, c'est parce qu'il s'agit d'un projet de plus grande envergure et que la méthodologie pour évaluer les coûts est différente, a fait valoir la Société de transport de Montréal lundi.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je sais plus comment te dire,
rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Toi d'hier et de demain,
bien trop beau.
T'es toujours ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme les vents qui fait chanter les violons et emporte loin les parfums des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
T'es parlé comme la première
encore
fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sont faux.
Tu es mon rêve et défendu.
Oui, tellement faux.
Seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fit danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Ascolta me.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole, parole. Parole, parole. Et encore des paroles. Que tu sais la voix. Parole, parole.
Que tu es beau.
On vient d'entendre une reprise parole, parole de, par Ibrahim Malouf, qui était accompagné de, du chanteur M et de l'actrice Monica Bellucci.
Horreur à Toronto. Alors, 10 morts et 15 blessés. Une autre photo de l'horreur qui s'est déroulée hier en après-midi. Des témoins racontent l'horreur, terreur à Toronto, toutes ces personnes dans la rue se faisant frapper l'une après l'autre, des boîtes aux lettres qui revolaient sur les gens, une personne a été traînée. Il y avait du sang partout dans la rue, c'était horrible, je tremble encore. Je ne peux pas croire que ça arrive, il frappait tout le monde qui était sur son chemin. Un arrêt d'autobus a éclaté en morceaux, j'ai vu une poussette revoler dans les airs, je n'ai jamais vu une scène pareille dans ma vie. Je quittais mon logement et j'allais m'allumer une cigarette quand je me suis retournée. Et j'ai vu le véhicule frapper un homme qui traversait l'intersection. Tout s'est passé très vite. J'ai entendu un bang. J'ai vu un homme revoler. C'était le chaos. J'ai vu 3-4 corps par terre dans des bains de sang. J'ai vu le véhicule se précipiter sur le trottoir. Je pensais que ses freins ne fonctionnaient pas. Finalement, ses freins fonctionnaient parfaitement car il a freiné à l'intersection. J'ai réalisé qu'il fuyait. J'ai vu du monde faire un massage cardiaque à 3 personnes étendues sur le sol. Puis 2 personnes ont arrêté les manœuvres. Et il y a aussi une photo avec des gens et des petites chandelles, des gens qui s'enlaçaient. Certains ont allumé des chandelles, déposé des messages en hommage aux victimes au coin de la rue Yonge et de l'avenue Finch hier soir à Toronto. La chronique de Richard Martineau intitulée « Le règne de la terreur ». Tous les spécialistes le disent et toutes les statistiques le confirment. Nous n'avons jamais vécu une période aussi peu violente. Comme l'affirme le Canadien Steven Pinker, chercheur en psychologie cognitive et auteur du best-seller mondial « La part d'ange en nous », le livre le plus inspirant que j'ai jamais lu, selon Bill Gates, il se pourrait bien que nous vivions l'époque la plus pacifique depuis que le genre humain existe. Oui, je sais. C'est bizarre de lire ce genre de déclaration le lendemain d'une attaque meurtrière à Toronto, en plein procès d'Alexandre Bissonnette et pendant que la Syrie est à feu et à sang. Mais c'est la réalité. Le monde n'a jamais été aussi peu violent. Pourquoi avons-nous l'impression que la violence est partout alors? Que nous vivons à une époque hyper dangereuse? Probablement parce que l'être humain n'a jamais été exposé à un si grand nombre d'informations. Le New York Times du dimanche contient plus d'infos que l'homme du 19e siècle ne pouvait en absorber pendant toute sa vie. Il n'y a pas plus de crimes qu'avant. Nous sommes tout simplement plus informés des crimes qui se commettent, c'est tout. Alors forcément, on pense qu'il y en a plus. Mais j'ai une autre théorie que je vous soumets bien humblement, n'étant spécialiste de rien. Nous avons l'impression de vivre à une période hyper violente car la violence est aléatoire. Elle frappe sans logique, au hasard. Les guerres traditionnelles avaient une logique. À l'époque de Napoléon, ça se déroulait même comme une partie de ballon chasseur. deux armées alignées l'une devant l'autre, la première tirait, la seconde répliquait, la première tirait à son tour, etc. C'était hyper organisé, comme un tir de barrage au hockey ou au soccer, tout juste s'il n'y avait pas un arbitre avec un sifflet. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de logique. Il n'y a même plus d'armée ou d'uniforme. La mémé ou la fillette que vous croisez au marché peut porter une bombe sous sa jupe. Avant, l'ennemi était facilement identifiable. Plus maintenant, c'est votre voisin, votre employé. Même plus besoin d'un tank portant les couleurs d'un pays pour écraser des gens. Un camion suffit. On ne frappe plus des ennemis, des adversaires ou des combattants, mais des innocents, des gens ordinaires, choisis au hasard. Avant, même la guerre était régie par des règlements, des lois, des traités. Plus maintenant. Aujourd'hui, c'est free for all. Tous les coups sont permis. Vous pouvez même attacher une bombe sur un enfant de 6 ans et la faire exploser à distance. Aujourd'hui, on part en voyage et on se demande « Devrais-je ou non visiter tel ou tel monument, tout à coup? » On ne sait plus. Ça peut frapper n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. Veux, veux pas, cela vous joue dans la tête. La violence est arbitraire, capricieuse, gratuite, injustifiée. On frappe dans le tas, les yeux fermés. Des vieux, des enfants, des malades, on s'en fout. Il n'y a plus d'honneur, que de la terreur. On ne frappe plus pour gagner, juste pour faire peur. Des professeurs frappés et insultés à l'école, un enseignant sur deux touché dans trois commissions scolaires de la Rive-Sud. Une élève qui poursuit son prof en brandissant des ciseaux. Un autre qui donne un coup de poing en plein visage à une intervenante. Plus de la moitié des enseignants de la Rive-Sud sont victimes ou témoins de ce genre de violence au quotidien, révèle un sondage réalisé auprès de 500 personnes qui travaillent dans les écoles des commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et Vallée des Tisserands. Un enseignant sur deux a été victime ou témoin de violences physiques dans la dernière année. La proportion grimpe à 3 sur 4 quand on se penche sur la violence verbale. Par ce sondage, le syndicat de Champlain souhaite dénoncer le manque de leadership des directions et commissions scolaires et interpeller le ministère de l'Éducation. Une campagne intitulée « Plus capable » sera d'ailleurs lancée aujourd'hui. Une mère prête à mourir pour sauver son fils, elle a pris le risque de donner une partie de son foie. L'amour d'une mère envers son fils est très puissant, comme Sarah Tessier peut en témoigner en cette semaine du don d'organes, alors qu'elle était prête à mourir pour sauver son fils de 18 mois, qui avait absolument besoin d'une greffe. La mère de famille de 30 ans lui a donné une partie de son foie le 15 février dernier. À voir Jack se promener avec sa mère et s'amuser dans un parc en cette journée ensoleillée, il est difficile de croire qu'il y a 2 mois et demi, son état de santé nécessitait une urgente intervention chirurgicale. Le petit bonhomme avait un grave problème depuis sa naissance. Ses voies biliaires, les tuyaux qui apportent la bile du foie à l'intestin, se fermaient progressivement, explique son hépatologue du CHU Sainte-Justine, le docteur Massimiliano Paganelli. Il avait seulement 5 semaines lorsque les médecins du CHU Sainte-Justine ont tenté de corriger la situation en l'opérant. Le 15 février dernier, le docteur André Roy du CHUM et son collègue Michel Lallier du CHU Sainte-Justine ont d'abord prélevé une partie du foie de la mère au CHUM avant de le transporter au CHU Sainte-Justine, où Jack attendait la greffe après s'être fait retirer son foie malade. Seulement 25 % de la partie gauche du foie de la maman a été retirée pour être implantée à son fils. On a même dû en couper une petite partie. Cet organe a la propriété de se régénérer rapidement. La greffe sur Jack s'est poursuivie durant 8 heures. Il y avait des risques de mortalité de 0,03 %. C'est très faible, mais les parents sont mis au courant avant de faire leur choix. En chiffres, personnes transplantées au Québec en 2017, 528 grâce à 182 donneurs. 117 foies transplantées, dont 6 provenaient de l'extérieur du Québec. Au 31 décembre 2017, 786 malades attendaient une greffe, dont 109 un nouveau foie. Temps d'attente moyen pour une greffe de foie, 184 jours. De nouveaux luminaires Adèle installés par la ville dans des dizaines de pâtés de maisons de Montréal-Nord seraient restés ouverts jour et nuit pendant près d'une semaine après leur installation. La Ville de Montréal a entrepris récemment de convertir plus de 132 000 lampadaires au sodium en luminaires aux diodes électroluminescentes DEL. Ces lumières offrent une plus grande efficacité énergétique et génèrent moins de pollution lumineuse, indique la Ville sur son site. Des centaines de ces nouveaux luminaires ont été installés dans Montréal-Nord au cours des dernières semaines, notamment entre les boulevards Pie-Neuf et Lacordaire. Lors du passage du journal dans le secteur hier, vers 14 heures, plusieurs de ces nouveaux lampadaires étaient activés en pleine journée. Curieusement, une vingtaine de minutes après un appel du journal à l'arrondissement de Montréal-Nord hier, les lampadaires dans le secteur se sont éteints. Le porte-parole Daniel Bussière n'a pas été en mesure d'expliquer l'origine du problème ni comment les lumières se sont finalement éteintes. Il a suggéré de contacter la Ville Centre qui n'a pas rappelé le journal. Sur le site de la Ville, on indique qu'un système de gestion à distance permet de contrôler les luminaires de rue Adèle.
Fille de personne, chantée par Hubert Lenoir.
les journaux régionaux dans Le Nouvelliste, Brigitte Trahan, Michaël Béliveau, vedette internationale du barbecue. Tout a commencé il y a 8 ans lorsque Michaël Béliveau s'est acheté un fumoir à viande juste pour s'amuser. Le truc à 60 $ lui aura causé bien des maux de tête. Aussi bien dire qu'il avait jeté son argent à l'eau. Amateur de bonne cuisine, le jeune homme ne s'est pas avoué vaincu pour autant. Aujourd'hui, l'expertise pointue qu'il a développée en matière de travail de la viande, qu'il s'agisse de barbecue, de lacto-fermentation, de salaison ou de fumage, fait de lui un expert que l'on consulte de partout dans le monde grâce au web. Ce n'est pas seulement à cause de sa passion pour ce sujet que les choses ont levé à ce point pour lui, mais aussi grâce à sa formation d'administrateur réseau en informatique. Son site web qu'il a monté lui-même et qu'il améliore régulièrement, maîtrefumeur.com, reçoit 2,5 millions de visites par année. Sa page Facebook, créée sous le même nom, il y a 3 ans, compte 38 000 abonnés et s'enrichit maintenant de 1 000 nouveaux abonnés par mois. La chaîne YouTube est sur le point de voir le jour. Même si les compétitions de barbecue gagnent en popularité, vous ne verrez jamais Michaël Béliveau y participer. Ma philosophie est tout le contraire. Je ne veux pas cacher mes recettes, je veux les partager, explique-t-il. Le résident de Notre-Dame-du-Mont-Carmel avait donc démarré sa page Facebook et son site web dans le but premier de créer une communauté de partage de recettes et de connaissances sur le travail de la viande. On comprend que dès le départ, il était déjà à des années-lumière des pilons de poulet avec sauce barbecue sur le grill. Parlez-lui plutôt de magret de canard fumé à chaud au poivre rose et au grand marnier et autre chose du genre. L'homme s'est même aménagé chez lui une chambre de vieillissement de la viande où la température et l'humidité sont soigneusement contrôlées afin d'y préparer des pièces selon diverses techniques. Michaël Béliveau a de moins en moins de temps pour s'occuper de sa compagnie d'informatique. Il n'a conservé que quelques clients, principalement des amis. C'est que le monde de la viande et sa nouvelle entreprise web Maître Fumeur l'occupe au moins 14 heures par jour. Je reçois quotidiennement entre 300 et 400 messages Facebook, dit-il. C'est en plus de ceux qu'il reçoit aussi sur son site web. La sonnerie de sa montre intelligente fait constamment compétition à celle de son téléphone. Le soir, il doit mettre tout ça en mode avion pour pouvoir dormir. Cette affluence demande une gestion serrée et lui gruge beaucoup de temps, mais elle a aussi de très bons côtés. Non seulement il en vit, mais il suscite déjà l'intérêt de diverses compagnies qui veulent s'associer à lui pour sa grande visibilité. Sa cour arrière en témoigne. On y trouve tout un chapelet de barbecue et une cuisine extérieure qui lui ont été données par diverses compagnies. Son plus proche collaborateur est Barbecue La Bonté de Drummondville. Il est facile de comprendre que les bonnes odeurs de la viande que Michaël Béliveau prépare lors de démonstrations, les fins de semaine, créent des queues de clients potentiels pour cette entreprise. Le mariage entre les deux est pour ainsi dire parfait. Avant, je payais pour être présent dans les festivals. Aujourd'hui, on me paie pour y participer. Michaël Béliveau a aussi lancé une gamme de produits, notamment un mélange d'épices à steak qu'il vend en ligne. Le jeune homme de 31 ans ne s'inquiète pas pour l'avenir. Il est du genre à suivre le courant de la rivière et à saisir les occasions qui se présentent à lui. Avant de lancer Maître Fumeur, le jeune homme affichait un poids de 400 livres. Une chirurgie a complètement changé son corps et sa vie. « J'étais une personne très timide », confie-t-il. L'idée de donner des cours devant une classe de 60 personnes le terrorisait. La perte de poids lui a apporté une confiance qu'il n'avait pas avant, dit-il. « Je ne l'aurais probablement pas fait avant », estime-t-il. Pour l'instant, il caresse le souhait de devenir vraiment la référence dans toute la francophonie mondiale. Thank you. Une pénurie de médecins qui fait mal à l'IUSMQ, Élisabeth Fleury dans le soleil. L'admission en psychiatrie à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, anciennement l'hôpital Robert Giffard, pourrait être interrompue dès le mois prochain en raison de la pénurie de médecins de famille, a appris le soleil. La crise des effectifs en omnipratique que traverse l'IUSMQ, qui n'aura plus que 3 médecins à temps partiel à compter du mois prochain, alors qu'il lui en faudrait 6 à temps complet, a atteint un nouveau sommet. Dans un mémo urgent envoyé vendredi aux membres du département clinique de psychiatrie de l'Institut universitaire de santé mentale de Québec et dont le Soleil a obtenu copie, les docteurs Yvan Gauthier et François Rousseau, co-chef du département, et le docteur Jean Lemieux, chef du service de médecine familiale, demandent de restreindre les admissions en psychiatrie à l'établissement du chemin de la Canardière. Considérant la pénurie importante de médecins de famille, l'absence de services en neurologie et l'accès restreint en médecine spécialisée pour desservir la clientèle psychiatrique hospitalisée au site de l'Institut, plusieurs patients ne peuvent plus, dès maintenant, être admis en psychiatrie à l'Institut, et dont ceux présentant une situation clinique nécessitant un suivi médical serré en médecine générale et ceux ayant une pathologie grave ou instable touchant le système cardiaque, pulmonaire ou rénal. Les patients dont le diabète est débalancé, qui présentent une instabilité de la condition médicale au plan neurologique ou qui ont une condition physique grave dont l'investigation n'est pas complétée, sont également refusés, précise-t-on. L'admission en psychiatrie au site de l'IUSMQ risque de devoir être interrompue advenant l'interruption du service de garde en médecine générale en mai 2018. Selon l'évolution des effectifs médicaux du service de médecine familiale à l'Institut, ces mesures seront renforcées à la fin mai 2018, cela pouvant aller jusqu'à l'arrêt complet des admissions sur les unités de soins en psychiatrie, peut-on lire dans le mémo. Les docteurs Gauthier, Rousseau et Lemieux demandent aux psychiatres œuvrant au sein des urgences psychiatriques du CIU3S de la Capitale-Nationale et à tous les psychiatres de garde de mettre en application de façon rigoureuse l'ensemble de ces mesures qui s'appliqueront jusqu'à nouvel ordre, mais qui pourront être reconsidérées selon la normalisation des effectifs en médecine générale. Cette crise des effectifs est attribuable au départ à la retraite ce printemps de 3 des 4 médecins les plus âgés du service de médecine familiale de l'IUSMQ et par 4 autres départs depuis mai 2017, cette fois vers d'autres secteurs ou lieux de pratique. La situation a été dénoncée le mois dernier dans des lettres ouvertes. Et dans le droit, niveau de sécurité inchangé à Ottawa, même s'il affirme que l'événement qui a coûté la vie à 10 piétons à Toronto lundi est inquiétant, le chef du service de police d'Ottawa, Charles Bordelot, soutient qu'à moins d'avis contraire, le niveau de sécurité demeure pour l'instant inchangé dans la capitale, tenant à préciser que les pensées de tous sont pour les victimes, leurs proches et les premiers répondants qui ont dû intervenir sur cette scène effroyable. Il a toutefois indiqué que les autorités ottaviennes surveilleront étroitement la suite des choses dans la ville reine. Nos bureaux sont en contact avec eux pour s'assurer qu'à Ottawa, nous avons l'information nécessaire. Par contre, rien ne change pour l'instant en ce qui a trait à notre niveau de sécurité, a-t-il dit. Vous écoutez Le Quotidien, de retour après la pause avec, entre autres, les actualités culturelles.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'apeurer grandissant dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Zaz et tous les cris, les SOS.
Actualité culturelle exclusive à la presse, Louis Morissette fonde une maison d'édition. Louis Morissette, éditeur de livres, c'est un article de Nathalie Collard, pourquoi pas? Avec le succès des livres de recettes de Yotam Ottolenghi, dont KO Media, une filiale de KO TV, possède les droits pour le Québec, la boîte de production a décidé de créer sa propre maison d'édition. La progression de KO Media se fait autour du contenu, rappelle Louis Morissette, rencontré dans ses bureaux du Vieux-Montréal. Papier, pas papier, la question n'est pas là. Les gens vont être là si tu leur donnes du contenu de qualité. À propos de la biographie qui paraîtra à l'automne, Louis Morissette précise « C'est une histoire que je voulais lire. Fin du plan stratégique. Je voulais qu'on raconte cette histoire-là. C'est un livre qui n'existait pas. On l'a commandé. Et ce n'est pas Véro », ajoute-t-il en riant. C'est son associée Sophie Banford, directrice générale et éditrice des publications chez KO Media, qui veillera aux destinées de KO Édition Inc. Elle arrive tout juste de la Foire du Livre de Londres, où elle a rencontré plusieurs éditeurs étrangers et d'où elle est revenue avec plusieurs idées et au moins un livre qui l'a particulièrement emballée. Nous avons déjà les droits pour les trois premiers livres d'Ottolenghi et nous sommes en pourparlers pour le prochain. On s'adresse d'abord aux femmes, c'est l'expertise que nous avons développée avec nos magazines. Alors, c'est certain que nos livres vont s'inscrire dans le même esprit. Sophie Benford, directrice générale et éditrice des publications chez KO Media. Bien sûr, la synergie est encouragée au sein du groupe KO, qui est aussi producteur de télévision, de cinéma et de spectacles vivants. Nous encourageons l'intégration verticale, mais cela ne doit pas être un frein quand on pense à un projet, explique Louis Morissette. Par exemple, les filles de Cuisine Futée étaient déjà à la télé et José Di Stasio n'est plus à la télé, donc ce n'est pas une obligation. Mais c'est certain qu'on le considère et avec les livres, il faudra s'attendre à ce que cette possibilité se retrouve dans les contrats. Louis Morissette s'est lancé dans l'édition magazine en 2015 lorsqu'il a repris le magazine Véro, produit jusque-là par Transcontinental. Est-ce qu'il pensait devenir éditeur un jour? Pas du tout, répond-il sans hésiter. Quand on a commencé l'expérience de Véro, c'était vraiment pour répondre à un besoin qui était bien précis, rendre ma femme heureuse. On voulait contrôler le magazine Véro et en faire quelque chose dont on serait fier sans en faire nécessairement une opération rentable. L'objectif était autour du nom de Véro. Quand Sophie Benford a quitté les éditions Rogers pour se joindre à l'équipe de KO, il était toutefois clair dans son esprit qu'il y aurait d'autres publications. Aujourd'hui, KO Media publie 6 magazines, dont le petit dernier, Di Stasio comme en Italie, sera lancé jeudi. Dès le départ, je voulais faire un magazine avec elle, affirme Sophie Benford. Le magazine porte sa touche, elle a vu à chaque détail, c'est 100% elle. Notre vision du magazine est très claire. On ne veut pas faire un magazine traditionnel. On propose un produit hybride avec très peu de publicité. On fait ce qu'on appelle des « bookzines » avec beaucoup de contenu et les gens sont prêts à payer pour ça. Il n'y a plus de place pour des publications « junk food » sur le marché, dit Louis Morissette. Quant à la stratégie, elle est toujours la même. KO Media publie un numéro et attend de voir la réaction. C'est ce que la filiale a fait avec Cuisine Futée, qui a déjà publié 3 numéros et qui cartonne en kiosque. On fait un deuxième numéro pour tous les magazines, note Sophie Benford. Seul le magazine Maman pour la vie a moins bien performé que prévu quand on le compare aux autres titres, mais on va ajuster le tir pour le prochain. KO Media s'apprête à lancer un 7e magazine consacré à la beauté, à la mode et au lifestyle, un créneau laissé vide depuis la fermeture de Loulou. C'est un magazine en lien avec le web qui s'adressera aux milléniaux, explique Sophie Benford, qui ne souhaite pas en dévoiler le nom tout de suite. Plus de détails à la fin du mois de mai. Temps de rendez-vous doux. Justin Boulet rendra hommage à son père. Il y a 30 ans cette année, Jerry Boulet lançait l'album Rendez-vous doux, un disque que l'ex-chanteur d'Offenbach a enregistré alors qu'il se savait atteint d'un cancer. Il est mort à peine 2 ans plus tard à l'âge de 44 ans. Pour souligner l'anniversaire de cet opus immensément populaire, le fils de Jerry, Justin Boulet, rendra hommage à son père lors du festival de Montgolfière de Gatineau. Il produira un spectacle mettant en scène de nombreux musiciens et chanteurs invités qui interpréteront les chansons de cet album majeur dont Les yeux du cœur est toujours vivant ainsi que de grands succès d'Offenbach. Les noms des invités de ce concert qui aura lieu le 1er septembre seront dévoilés demain. Coup de théâtre, le sujet de la parité au théâtre prendra une couleur surprenante en 2018-2019 dans la programmation du Rideau vert. Denise Filiatro annoncera aujourd'hui que les 5 pièces de la saison seront mises en scène par des femmes et que le tout commencera le 25 septembre avec l'œuvre phare de Denise Boucher, « Les fées ont soif ». La production du Rideau vert n'a rien à voir avec celle présentée à Québec en 2014-2015 qui avait remporté le prix de la critique pour le meilleur spectacle de l'année. C'est Sophie Clément qui dirigera à Montréal les comédiennes Bénédicte Descaries, Caroline Lavigne et Pascal Montreuil. La metteur en scène était de la création de la pièce en 1978 au TNM, en compagnie de Louisette Dussault et de Michel Magny. Je tenais à ce qu'on ouvre la saison avec cette pièce qui a tellement fait parler au Québec, dit Denise Filiatro, directrice artistique du Rideau vert. C'est mon genre de pièce pour ouvrir une saison. du Filiatro tout craché. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est une femme qui l'a écrite, mais parce que c'est une femme de talent. J'ai hâte de voir comment la nouvelle génération va la recevoir. On a changé en 40 ans. Pas tant que ça, ma chère, répond Denise Boucher. Le mouvement, moi aussi, par exemple. Les gens disent que c'est dépassé, mais quand je regarde Stormy Daniels contre le président américain, je trouve ça fantastique. Je la trouve belle. Ouais, moi, je la trouve un peu girly à mon goût, ajoute Denise Filiatro. Vente d'un tableau de Jacques-Louis David, la ministre Montpetit annonce que le Saint-Jérôme restera au Québec. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Marie Montpetit, a publié hier un avis d'intention de classement pour le tableau Saint-Jérôme, entendant les trompettes du jugement dernier, et elle annonce qu'il restera au Québec. L'intérêt manifesté par le Musée des beaux-arts du Canada pour cette toile du peintre français Jacques-Louis David, appartenant à l'archevêché de Québec, suscite une controverse depuis quelques jours. L'avis d'intention de classement publié hier par le gouvernement québécois met un frein à toute vente de cette œuvre soudainement très convoitée. Le propriétaire de ce bien patrimonial exceptionnel devra en effet donner à la ministre québécoise un avis écrit d'au moins 60 jours avant de le vendre pour que le gouvernement du Québec puisse décider d'exercer ou non son droit de préemption au prix offert par l'acheteur intéressé. Or, la ministre Montpetit a annoncé hier avec fierté que le Saint-Jérôme de Jacques-Louis David restera au Québec. Et de façon plus large, la ministre affirme qu'elle a mandaté le ministère afin de développer une nouvelle stratégie de protection des biens mobiliers à caractère religieux. De son côté, le Musée des beaux-arts du Canada a annoncé plus tôt hier qu'il était maintenant disposé à mettre sur pied des ententes de prêt à long terme du Saint-Jérôme avec des musées du Québec. Une idée que le directeur général Marc Maillé écartait du revers de la main la semaine dernière. En entrevue à Radio-Canada, il soutenait alors qu'un tableau précieux n'est pas comme un enfant qu'un couple séparé se partage une fin de semaine sur deux. Le MBAC, Musée des beaux-arts du Canada, a annoncé récemment qu'il était prêt à vendre un tableau de Chagall de sa collection pour pouvoir acquérir le Saint-Jérôme de David et le garder au pays. Dans une lettre ouverte, le MBAC a soutenu qu'il ne croyait pas qu'une institution québécoise pourrait acquérir le tableau et que pendant ses échanges avec l'archevêché, il avait appris que le Saint-Jérôme avait été offert à des institutions à l'étranger. « Nous avons signalé au propriétaire que nous ferions tout notre possible pour que le tableau reste au Canada et il a accepté de nous laisser davantage de temps pour recueillir les fonds nécessaires », lit-on dans la lettre ouverte du MBAC. Nos démarches n'ont jamais eu pour but de nous conférer un avantage sur les musées du Québec, mais plutôt de donner au Canada les moyens de prévenir la sortie du pays d'une œuvre d'art majeure. Quant à la Tour Eiffel de Marc Chagall, le conseil d'administration du MBAC a réexaminé sa décision, mais procédera comme prévu à sa vente aux enchères le 15 mai, même si cette aliénation avait soulevé bien des critiques dans le milieu muséal canadien. Les pratiques d'aliénation varient d'un grand musée à l'autre, mais il n'est pas rare d'y recourir en Amérique du Nord pour générer des fonds permettant de constituer des collections d'art toujours plus solides et plus pertinentes, a expliqué le MBAC. Les produits de la vente seront ainsi affectés à trois fins importantes : permettre une éventuelle acquisition du Saint-Jérôme de David, établir un filet de sécurité financier pour l'achat d'œuvres menacées de quitter le pays et renforcer la capacité du musée d'acquérir des œuvres d'art d'importance seul ou en partenariat avec sa fondation.
Bowie est parti ce matin, tu siffles en hommage un refrain, encore un peu sourd de la veille, on sait rien ne sera plus pareil. Tu nages dans l'eau de la piscine, défie de motricité fine. tu sembles incarner le divin, comme si David Hockney t'avait peint. Toute la nuit, avec des phrases, des assorties, j'ai encore tant de choses à te dire. Peut-être aurais-je mieux fait de te fuir. J'aurais voulu cacher mes larmes. Vive la vie, vive les drames. Sais-tu à quel point tu me plais? J'espère qu'on ne se lâchera jamais. Est-ce la chaleur qui m'assomme, ou l'alcool d'hier qui résonne? Devant toi je me sens tout petit, j'ai envie d'avaler la vie. Tu ressembles au prince charmant. Dis-moi, existes-tu vraiment? Je sais, on vient de se rencontrer. Accepterais-tu de m'épouser?
Pierre Lapointe, mon prince charmant.
La presse à Toronto attaque au camion Bélier une arrestation qui va servir de référence. C'est un texte de Pierre-André Normandin. Le policier qui a arrêté le suspect dans l'attaque au camion Bélier à Toronto hier a agi dans les règles de l'art, selon l'ancien directeur du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, Marc Parent. Le chef de direction au commissionnaire du Québec a accepté de décortiquer l'intervention avec la presse pour permettre de mieux comprendre pourquoi l'agent torontois n'a jamais ouvert le feu alors que l'individu se montrait menaçant. Le face-à-face. Les vidéos captées par des passants permettent de constater que la camionnette blanche, dont le pare-choc est lourdement endommagé, finit par s'immobiliser sur le trottoir. Une voiture de police se gare en parallèle à quelques mètres. Pendant que le chauffeur descend de la camionnette, un policier se tient légèrement accroupi derrière sa voiture de patrouille, tenant le suspect en joue et lui intimant l'ordre de se coucher au sol. Il a une couverture. C'est important parce que tu achètes du temps et une protection. Tu retardes la menace vers toi. C'est un élément tactique très important, observe Marc Parent. En contrôle. Tue-moi. Tire-moi dans la tête. À plusieurs reprises, on entend le suspect crier au policier de le tuer. À quelques reprises, on voit même l'homme descendre sa main droite vers sa ceinture et la remonter rapidement en pointant le policier face à lui d'un objet sombre. Mais l'agent n'ouvre pas le feu. Un des premiers facteurs à considérer, c'est de savoir si le policier craint pour la vie de quelqu'un ou sa propre vie, ce qui l'obligerait à faire feu. On peut en déduire qu'il se sentait en contrôle de la situation et que sa vie n'était pas menacée parce qu'il n'a pas vu d'armes blanches ou d'armes à feu, analyse Marc Parent. Suicide par policier. L'ex-directeur du SPVM voit d'ailleurs dans les cris répétés du suspect invitant le policier à le tuer un indice supplémentaire. Quand il dit « tire-moi », c'est ce qu'on appelle un suicide provoqué par un policier. C'est quelque chose auquel on fait parfois face en Amérique, note M. Parent. Réduire le stress. Après une trentaine de secondes de face-à-face, le policier tente de calmer la situation pour éviter une escalade des tensions. Tout en maintenant le suspect en joue, il prend le temps d'ouvrir la portière de sa voiture de patrouille pour arrêter le cri strident de sa sirène. C'est pour mieux communiquer avec l'individu. Ça peut aussi enlever un élément de stress, poursuit M. Parent. Communication. L'arrêt de la sirène permet en effet aux échanges d'être un peu plus poussés. Le policier continue à donner l'ordre de se coucher tandis que l'homme tente de nouveau de le convaincre de faire feu. « J'ai une arme dans mes poches », finit par lancer le suspect. La réponse du policier lui permet alors probablement de comprendre que l'agent n'a pas mordu à l'hameçon et qu'il ne compte pas le tuer. « Je m'en fous, couche-toi ». Arme intermédiaire. Le suspect change alors d'approche et commence à avancer vers l'agent de façon menaçante, toujours en le pointant du bras. Le policier recule, maintenant une distance sécuritaire entre le suspect et lui. Il en profite toutefois pour saisir un objet à sa ceinture, probablement son bâton télescopique. Quand un policier déploie son bâton, ça fait un bruit et c'est intimidant. Ça envoie un message. On passe à une autre étape, résume Marc Parent. Ce dernier note que la vue de l'arc électrique d'un pistolet à impulsion peut avoir le même effet. La tactique porte ses fruits parce que l'attitude du suspect change du tout au tout. Il cesse d'avancer, lève ses mains en l'air pour ensuite se coucher au sol où l'agent lui passe les menottes. Force proportionnelle. Pour Marc Parent, nul doute que cette intervention servira de référence dans la formation des policiers. Ce type d'arrestation étant extrêmement délicate. C'est le genre de choses qu'on pratique très tôt dans la formation d'une recrue et qu'on va cibler dans nos mises à jour des policiers. L'agent ne s'est jamais senti menacé parce qu'il a pris les dispositions pour bien se protéger jusqu'à la fin de l'intervention. Il a toujours communiqué avec l'individu pour le raisonner et le faire obtempérer. C'est une intervention qui va servir de référence. Lors d'un point de presse en soirée, le chef de police torontois, Mark Saunders, a d'ailleurs vanté le sang-froid de son policier qui a 6 ans d'expérience. Évasion dans le Journal de Montréal ce printemps à Châteauguay. On retrouve pas moins de 4 sites naturels protégés à Châteauguay, dont le refuge faunique Marguerite Diouville et le centre écologique Fernand Séguin. De belles découvertes nous y attendent. Libre à vous d'explorer par vous-même ou de vous joindre à une activité d'Héritage Saint-Bernard, le gestionnaire des sites, c'est Alain Demers qui signe l'article. Lieu de prédilection de Sophie Thibault, chef d'antenne à TVA-LCN pour la photographie de nature. Le refuge faunique est propice à la capture de belles images. Champs, boisés et marais abritent une faune riche et variée. Au pavillon de l'île, un espace devait d'ailleurs être aménagé ces jours-ci pour la vente d'articles avec les clichés remarquables de la journaliste et artiste, son livre « Dans ma nature », des photos sur acrylique, des cartes de souhait. Les profits sont destinés au refuge faunique. Pour vous dire à quel point les lieux grouillent de vie, l'équipe du refuge faunique dont Sophie Thibault fait partie, défendra son titre de vainqueur au Grand Défi québécois, au Grand Défi québécoiseau, le samedi 26 mai. L'enjeu? Observer le plus d'espèces d'oiseaux entre le lever et le coucher du soleil. Une journée d'activité est de plus prévue au sujet de la sauvegarde des hirondelles. On ira voir des nichoirs déjà installés et un autre gigantesque pouvant abriter une colonie. Au centre écologique. Avec son nouveau chalet d'accueil, le centre écologique Fernand Séguin devient un site naturel plus accessible encore. À faire en tout temps sur les sentiers, à tirer les mésanges dans nos mains avec des graines de tournesol. Tous les week-ends de mai se tiendront des ateliers de découverte. On apprendra entre autres comment reconnaître grenouilles ou rainettes selon leur chant. L'accès au centre est gratuit. Alors, il y a quelques photos, le nouveau chalet d'accueil au Centre écologique Fernand Séguin, Sophie Thibault avec son appareil photo, un bel oiseau, une hirondelle. Aussi, en bref, on peut lire « Sentier, 8 km au refuge faunique et 5 km au Centre écologique ». On nous donne un numéro de téléphone 450-698-3133, 450-698-3133 et une adresse Internet www.ilsaintbernard.com. D'autres idées pour le week-end, de l'escalade en tout temps. À l'ouest du quartier 10-30 à Brossard, Canyon Escalade à la Prairie est doté de 220 voies pour grimper à l'intérieur. Initiation d'une heure avec moniteur, $25 par personne. www.canyonescalade.com. Des sentiers sur pilotis. À Nicolet, au parc écologique de Lens-du-Port, on marche au bord du lac Saint-Pierre grâce à deux sentiers sur pilotis. Le plus long s'étire sur plus de 800 mètres. Pour plus d'informations, tourisme-nicolet-yamaska.com. Et finalement, l'île des Moulins. Le site historique de l'île des Moulins à Terrebonne est traversé de plusieurs petits sentiers. On a une belle vue sur la rivière des Mille-Îles et on croise plein de canards. www.tourismedesmoulins.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui dit aussi merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute encore une fois. Et je vous invite à le rester puisque dans un petit moment, j'anime les paractualités.